quelques lueurs d'aéroport. L'étrange fille aux cheveux d'or dans ma mémoire.
Nicolas Perrac, interprète des titres mythiques So Far Away, From LA et Mon Père, Je pars, n'est pas l'auteur que de ces quelques succès. Il a écrit et composé bien d'autres chansons. La preuve, il en est à son 20e album intitulé Suffit que tu oses, qui est dans les bacs depuis le mois de janvier dernier. Et Nicolas signe son grand retour 5 ans après son album de duo avec entre autres Serge Lama, Benabar, Julie Zenati et bien d'autres artistes. Nicolas Perrac, grand artiste des années 70-80, continue son petit bonhomme de chemin et est mon invité cet après-midi sur Playlist La Web Radio.
So far away from LA, so far ago.
Bonjour Nicolas et bienvenue sur Playlist La Web Radio.
Bonjour.
Nicolas, alors moi je suis à la fois émue et ravie de vous recevoir cet après-midi sur Playlist La Web Radio. Et votre nouvel album « Suffit que tu oses » qui est dans les bacs depuis janvier dernier, nous allons naturellement en parler. Hein. Mais alors avant, si vous le voulez bien, moi j'ai très envie que vous nous parliez un peu plus de vous. Tout le monde connaît Nicolas Perrac à travers les titres « So Far Away »,« Je pars » et « Mon père ». Mais votre carrière ne se résume pas à ces titres, puisque vous avez déjà sorti plus de 20 albums.
Bah, c'est-à-dire que cette carrière, bon, je trouve pas que ça soit une carrière. Déjà, je trouve que c'est un parcours. Et puis, bon, il y a eu des chansons, c'est vrai, qui ont marqué les gens, qui ont eu peut-être la chance de rentrer dans la mémoire collective ou dans la conscience populaire. Enfin, c'est comme on veut, mais en fait, c'est des chansons qui, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que en fait, si j'ai décidé il y a 3 ans d'entreprendre des concerts qui s'intitulent les acoustiques improvisées.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Mais c'est justement parce que je voulais montrer aux gens qu'il n'y avait pas que ces 4 ou 5 chansons phares, je dirais, mais qu'elles étaient vraiment... elles apparaissaient, mais qu'il y avait pour les soutenir tout un univers et tout un monde fait d'autres chansons qui, pour moi, sont peut-être aussi importantes, sinon plus importantes que les chansons qui ont été, à une certaine époque, très médiatisé. On peut pas réduire une vingtaine d'albums à 4 ou 5 chansons phares qu'on peut entendre constamment sur un certain nombre de radios. C'est très très.
Je suis tout à fait d'accord.
Très décevant, c'est très réducteur. Voilà, donc évidemment, encore une fois, je considère que c'est pas une carrière, mais c'est. J'ai écrit des choses au fur et à mesure que la vie avançait, qu'elle me réservait des aventures rigolotes ou pas. Et puis ces chansons ont marqué mon itinéraire comme des points de repère. Voilà.
Absolument. Mais Nicolas, qu'est-ce qui vous a décidé de faire de la musique? On va commencer un petit peu par le commencement. Et mon père, sorti en 1975, c'était votre deuxième tube. Hein,
ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, je crois que... À ce moment-là, vous étiez en année de médecine.
J'étais en 6e année de médecine, ouais.
Et puis d'un seul coup, paf, j'écris une chanson.
Pas du tout, d'un seul coup. non, mais moi, j'avais ça dans la tête depuis que j'avais, je sais pas, 14-15 ans, depuis que j'étais en seconde, je pense, ça me travaillait.
D'accord.
Et puis j'ai passé un an avec mon père qui vivait séparé de ma mère, donc avec mes deux frères, et mon père parlait pas parce que sa seconde femme, donc comme il n'y avait pas de dialogue vraiment possible, j'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai commencé à les mettre en musique parce qu'on m'avait offert une guitare, etc. Donc c'est un processus qui a été, je pense, allumé à l'époque où j'avais, je vous dis, 14 ans, quoi.
D'accord. Et puis en plus, bon bah, vous avez dû être Vous avez été conseillé, par exemple, votre père, il approuvait le fait que vous vouliez arrêter vos études de médecine.
C'était très 50% ma mère, elle qui avait été d'abord qui était ingénieure et puis qui malheureusement quand elle a disparu, elle était chef de service en médecine, chef de service de physiologie, donc c'était une tête. D'abord, été ingénieur, reçu à Polytechnique, aux arts et métiers, aux mines, etc., avant de se mettre à faire médecine. Donc pour elle, son fils, ça devait être le docteur Schweitzer. C'est-à-dire qu'elle avait qu'une envie, c'était que je sois, non pas à l'embarrainer, mais que je sois éventuellement un chercheur brillant dans une université américaine ou ailleurs. Et mon père, lui, il a toujours pensé que c'est en risquant de rater sa vie à 20 ans qu'on est sûr de la réussir. Donc,
Belle philosophie.
Donc, comme lui, il avait été accepté chez Gallimard en première lecture pour un roman et que d'ailleurs, il n'a jamais signé là-bas, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il fallait qu'il soit médecin, parce qu'il fallait qu'il fasse vivre ma mère et moi. Je pense que toute sa vie, il a traîné dans sa tête cette espèce d'envie qu'un de ses enfants prenne un jour un risque pour faire des choses. Donc j'étais, il y avait une dichotomie, il y avait d'un côté ma mère qui avait envie que je sois un médecin brillant, et puis de l'autre côté mon père qui avait envie que je réussisse dans ma vie et non pas dans la vie. Il avait envie que je réussisse ma vie, et c'est très très différent. Donc moi j'étais pris entre ces deux-là, et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à aller du côté de mon père et à prendre les risques pour faire ce que j'avais envie de faire.
Eh ben moi, j'aime beaucoup cette idée, être simplement heureux parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît dans la vie.
Mais oui, voilà. mais c'est ça. C'est-à-dire que la chance de se réveiller le matin en se disant, on fait des choses et ces choses-là, elles nous ressemblent, et c'est pas une contrainte. Et en même temps, on a la chance inouïe que ces choses-là puissent à un moment donné interpeller les gens, et on peut partager les émotions avec les gens. Ça, c'est génial. Voilà.
Tout à fait. Alors, votre père rêvait d'être écrivain, en quelque sorte. Il est devenu médecin. Et Nicolas Perrac, le fils, il faisait des études de médecine, et puis du coup, il est devenu compositeur, interprète, et puis l'artiste que l'on connaît.
C'est ça. Mais je pense que ma mère, il a fallu qu'un jour, le doyen de la faculté de médecine d'Abidjan viennent la voir avec un article d'un magazine Le Point, sur mon premier album dans Le Point. Et quand le fait que ce soit un médecin, chef de service, doyen de la fac, qui lui amène un article sur son fils, ça lui a fait penser à ma mère que finalement, je faisais peut-être pas un truc si nul que ça. Donc, c'est très bizarre, hein, les démarches des parents.
Surtout à cette époque-là, c'est une époque quand même où c'était, fallait passer son bac, faire des études pour réussir, et puis où réussir, je sais pas, il me semble que les artistes étaient un petit peu des saltimbanques, hein, à tous les sens des termes.
Je pense que les vrais artistes, vrais, parce qu'il y en a tellement de fake.
Oui, oui.
Fake news. Je pense qu'il y a des artistes qui sont absolument pas des saltimbanques, qui sont des gens qui sont là pour essayer de gagner de l'argent le plus rapidement possible en un minimum de temps.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et puis il y a encore une fois, les vrais artistes. Je pense que ce sont vraiment des saltimbanques. Ce sont des gens qui sont prêts à mettre leur vie dans la balance pour faire les choses qu'ils ont vraiment envie de faire, parce que ils vivent avec ça dans la tête, et voilà, c'est un vrai truc qu'on porte en soi. C'est pas, je crois pas que ça soit quelque chose qu'on calcule, c'est pas quelque chose qu'on planifie. Je crois que c'est quelque chose avec lequel on se réveille le matin en se disant mais j'ai envie de faire ça parce que c'est moi, quoi, voilà.
Ouais, tout à fait. Et puis en plus, à l'époque, c'était quand même une époque, on va dire, propice au tout ce qui était brillant, paillettes. Et puis vous avez quand même traversé les modes en restant vous-même. Vous êtes toujours le même quand on vous entend, quand on vous voit, trop rarement à la télé.
Il faudra leur dire de m'inviter. Qu'est-ce que vous voulez?
Moi, je trouve que c'est pas juste. Et vos chansons sont intemporelles, parce que on commence à, on va pas revenir là-dessus, mais on fredonne ou on dans notre.
Pour poursuivre sur le mot intemporel, je me suis rendu compte de ça au moment où j'ai commencé ces acoustiques improvisées, parce que j'étais dans des cuisines avec une guitare en me disant qu'est-ce que je pourrais chanter comme ça juste à la guitare sans qu'il y ait besoin des arrangements derrière, des musiciens et tout ça. Et je me suis rendu compte que certaines chansons, effectivement, avaient traversé les époques, et que, vous savez, une bonne chanson, je vais prendre l'exemple de Je l'aime à mourir de Cabrel, ou des Feuilles mortes, ou du temps des cerises, ces chansons-là, elles se suffisent à elles-mêmes, piano, voix, guitare, voix, elles ont besoin de rien.
Absolument, c'est vrai.
Une bonne chanson, encore une fois, si elle est attachante, si elle est pétillante, si elle est intelligente, si elle est émouvante, elle a besoin de rien derrière, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'ai réalisé au moment où j'ai décidé de faire ces acoustiques improvisées, où j'ai passé en revue les chansons, et je me suis rendu compte que finalement, sur 20 albums, depuis 75, il y a un paquet de chansons que j'aurais pu écrire ce matin, quoi, que j'aurais pu écrire ce matin, et finalement c'est juste l'arrangement et le son de l'époque où ça a été enregistré,
oui, tout à fait,
qui permet de dater la chanson, sinon elle traverse effectivement le temps sans forcément prendre de ride, quoi.
Alors justement, une chanson qui ne prend pas de ride, on va faire une petite pause musicale, Nicolas, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Avec une chanson qui n'a pas pris une ride, et justement, Et mon père, vous êtes d'accord ?
Absolument.
Allez, on va écouter Et mon père, Nicolas Perrac.
Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah, c'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore y'avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre on croquait du café, il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts, la pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui deux salades, trois tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné, des fois qu'il aurait voulu draguer. Qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi, les hit-parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de trip, ta boutique, tu pouvais la fermer. Et Trainet avait mis des années, et Brassens commençait à en baver, et Beco astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore y'avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués.
C'était Et mon père, Nicolas Perrac, qui est mon invité cet après-midi sur Playlist La Web Radio pour la sortie de son nouvel album Suffit que tu oses, disponible dans les bacs depuis le mois de janvier dernier. Alors Nicolas, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu un peu partout, me semble-t-il. Pourquoi avoir décidé un jour de partir comme ça ?
Bah partout, j'ai pas vécu partout, mais c'est vrai que j'ai vécu...
Enfin quand je dis partout, c'est vous à plusieurs endroits différents
vécu,
quand même.
Oui, j'ai vécu un an avec ma mère à New York quand j'avais 12 ans et ça a été un bien parce que ça m'a permis de parler anglais couramment après. Et puis,
et puis
c'est vrai qu'au hasard de la musique, j'ai été beaucoup chanté dans différents pays du monde, jusqu'au Japon, jusqu'en Corée, en Australie et tout ça. Et puis, grâce à la musique aussi, j'ai passé quasiment un an et demi, presque, voire deux ans, à Los Angeles, donc, parce que j'avais des amis, parce que je travaillais, etc. Donc, voilà, c'est et puis après j'ai décidé de partir à Montréal sans savoir que j'allais y rester 15 ans parce que j'avais envie de vraiment changer d'air et de me ressourcer, quoi. Il fallait que je recommence ma vie quasiment avec rien à Montréal. Et puis jamais on aurait pensé que ça durerait aussi longtemps, mais finalement ça devait être comme ça, ça a été comme ça. Donc j'ai finalement, c'est vrai pour les gens, une espèce d'apparence de mec qui se balade beaucoup, Sauf que depuis que je suis rentré de Montréal, c'est vrai que j'ai beaucoup plus envie d'être en Bretagne et de voyager beaucoup en France parce que je fais plein de concerts, mais j'ai plutôt envie d'être chez moi ici parce que finalement ça m'a quand même beaucoup manqué, quoi.
D'accord. Mais peut-être le fait d'être si longtemps éloigné de chez soi, au bout d'un moment, quand on revient, est-ce qu'on n'a pas l'impression de dire « je rentre chez moi » et qu'on se rend compte que finalement, là où on revient, c'est là où on a envie de rester ?
Oui, c'est complètement ça, j'ai redécouvert. Je veux dire, l'endroit où j'habite, là, donc en Bretagne, hein, c'est un village de 3000 habitants, donc c'était où habitait mon père, j'ai récupéré ma maison d'enfance.
Ah, super, ouais.
C'est vraiment, j'ai l'impression d'être revenu dans mes racines, quoi. Alors que quand j'étais ailleurs, je me rendais pas compte que c'était là. Bon, c'était un point de repère, c'était l'endroit où vivait mon père et tout ça, mais maintenant que je m'y suis réinstallé, que je me suis réapproprié cette maison, j'ai vraiment l'impression et le sentiment et la certitude même que c'est vraiment là, c'est chez moi, quoi. Il y a aucune façon de dire autre chose, hein. C'est vraiment chez moi, voilà.
Et vous y sentez bien?
Ah ouais, mais carrément, ouais, ça c'est...
Voilà. Ben, sans transition, écoutez, on va refaire une seconde pause musicale et on va écouter justement un de vos plus grands succès également qui illustre bien un petit peu votre vie, ce que vous venez de nous raconter. Et on va écouter « Je pars ».
D'accord.
Nicolas Perrac, je pars.
Votre instant d'évasion à portée d'oreille. Vous écoutez.
Vous écoutez Playlist, la web radio.
Nicolas, alors vous vous faites plutôt discret, hein, on le disait tout à l'heure, et pourtant depuis un peu plus de 2 ans environ, je crois, vous avez fait de superbes concerts acoustiques improvisés dont vous nous parliez tout à l'heure. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, vos concerts.
En fait, ça m'a pris il y a 3 ans, en fait ça m'a pris au moment de la sortie de l'album de duo. Il y a un album de duo qui est sorti en 2013 qui s'appelait Nous Voilà, et c'est sorti en même temps qu'un livre de souvenirs intitulé Un certain 21 mars, et à un moment donné, je me suis dit, ces deux choses-là parlent d'écriture. C'est-à-dire que l'album de duo, c'est l'occasion de partager avec Benabar, Sanseverino, François Morel, un certain nombre de gens, des chansons à la fois connues et à la fois pas connues. Parce qu'avec Benabar, par exemple, on partage une chanson qui s'appelle On dit, qui était sur un album récent, donc c'était des choses pas connues. Avec François Morel, on partage une chanson qui s'appelle De l'autre côté de la lune, dont le texte a été écrit par celle qui me supporte depuis maintenant 25 ans. donc c'est pas des chansons, c'était pas un album de duo qui était fait pour mettre en avant des tubes, donc, et le livre de souvenirs parlait beaucoup d'écriture. À la lumière de ces deux sorties-là, je me suis dit, mais finalement, on passe son temps à me résumer, avec So Far Away, mon père, chanson, le vin me saoule, machin. Et je me suis dit, mais quelle serait la bonne méthode pour que les gens se rendent compte, enfin, que je suis pas celui qui a écrit que 4 chansons et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui montrent qui je suis finalement. Et la seule solution pour ça, c'était de dire à mes musiciens ça serait mieux s'ils se mettaient entre parenthèses, pas dans ma vie affective parce que je les aime profondément, mais dans ma vie professionnelle, et que je partais tout seul avec une guitare, parce que comme ça, quand on est tout seul, si on a envie le lundi de chanter des choses différentes de ce qu'on va chanter le mardi ou le mercredi, on n'a pas besoin de répéter, on est seul maître à bord. Donc je me suis dit, je vais partir, je vais me faire une liste comme ça, qui soit une liste de 40 chansons, et dans les 40-45 chansons, je vais en chanter 25 ou 22 ou 23, comme ça va me prendre.
Selon l'humeur du jour, voilà.
Selon mon humeur, en gardant quand même une base de 4-5 chansons très connues. Et j'ai commencé à faire ça, et on a commencé dans des endroits un petit peu discrets, etc. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés, quand je dis on, c'est parce que je travaille avec Vincent, donc Vincent Rinaldi, qui est mon ingénieur du son, et donc on s'est retrouvés à faire les Francopholies à Spa il y a 2 ans, devant à peu près 5000 personnes, et puis on a fait le Théâtre des Mathurins à Paris 4 fois, on l'a refait pour la sortie de l'album Suffictuose en février dernier. Là, on va aller aux Francopholies à La Rochelle le 12 juillet prochain, et en même temps, on peut faire des tout petits endroits, donc cette formule-là, c'est une formule qui séduit beaucoup les gens, d'abord parce que ils ont l'impression d'être assis sur mes genoux, ou que je suis assis sur leurs genoux, et que je leur murmure des choses à l'oreille. C'est un concert qui est...
Une grande réunion de famille, en fait.
Bah oui, et puis en même temps, c'est très sélectif. C'est-à-dire qu'au Franco, il faut faire 1 heure, mais le dernier concert au Mathurin, ça durait 2h30. Donc je parle beaucoup, je raconte, j'explique aux gens pourquoi telle chanson a été écrite, je me moque de moi, je chante des chansons d'autres personnes, je rends des hommages. Voilà, c'est proche finalement d'un pas d'une pièce de théâtre, parce que c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est vraiment quelqu'un qui raconte des choses. Je déroule un livre ou des images devant les gens, et je les illustre par des musiques ou par des confidences. Donc c'est vraiment une promenade ensemble, et je pense que c'est ça qui séduit les gens, parce qu'on est passé du côté le show où je vais vous en foutre plein la vue avec des lumières, des machins, des trucs, pouette, au show de quelqu'un qui arrive tout seul avec une guitare. Et c'était les critiques que j'ai eues aux Francopholies à Spa, étaient formidables, c'est vrai, il y a 2 ans, parce que ça se terminait en disant chapeau bas, il arrive tout seul avec sa guitare, alors que personne n'oserait faire ça, quoi. C'est...
Ah bah oui, parce que maintenant il faut des camions de régie d'instruments pour les concerts.
Des semis, etc. Moi j'arrive tout seul avec une gratte, donc forcément on parle pas de la même chose, mais en même temps... faire en sorte que 3000 ou 5000 personnes écoutent, c'est très facile, hein. Vous les faites asseoir par terre, sur le gazon, et ils se mettent à écouter, les gens. Vous savez, ils écoutent parce qu'ils ont, parce qu'en fait, ils vont dans des festivals comme ça, ils ont envie, ils ont autant envie d'être émus que de sauter en l'air et de danser.
Oui, c'est vrai, je comprends.
C'est les mêmes émotions, mais c'est toujours des émotions.
Ouais.
Et l'un n'empêche pas l'autre.
Ouais. Voilà. Eh ben, ça doit être fabuleux. Écoutez, moi, j'ai regardé, j'avoue que j'étais curieuse et je suis allée sur Internet où il y a des petits extraits de ces concerts acoustiques improvisés. Et c'est, franchement, c'est une très, très belle idée. Et je trouve que ça rapproche plus les gens, en plus.
Ah ben, moi, je trouve que c'est, de toute façon, finalement, après tant d'années de concerts, je me rends compte que c'est la formule qui me ressemble et qui me va comme un gant. C'est, y a même pas de question à se poser, quoi. C'était une évidence, mais je pouvais pas le faire avant. Pourquoi ? J'étais peut-être pas mûr, j'étais peut-être pas capable, j'étais peut-être pas dans le mood, je sais pas.
Mais
ce que je sais, c'est que maintenant, je vais avoir beaucoup de mal à repasser à la formule avec les musiciens, quoi. Mais beaucoup de mal. Hein.
Ah ben oui. Bah puis si c'est une formule qui vous convient et qui vous va tout à fait, pourquoi changer, après tout ?
Ah ben j'ai pas l'intention de changer.
Eh ben c'est bien.
En même temps, c'est vrai qu'à un moment donné. On a peut-être envie de faire évoluer cette formule vers une formule où on peut de nouveau incorporer les musiciens, mais,
oui.
Mais si j'incorpore de nouveau les musiciens, ça sera à partir de la formule acoustique improvisée. C'est-à-dire qu'ils viendront comme des amis qui apportent des touches, etc. Mais je pense que la structure acoustique improvisée, c'est ce qui va définitivement rester ma marque de fabrique maintenant.
D'accord. Alors on va parler justement d'improvisation, Nicolas. Par exemple, si je vous demande la brûle pour point, quel artiste vous aimeriez écouter là maintenant avec les auditeurs de Playlist La Web Radio ?
Quel artiste j'aimerais écouter maintenant là ?
Un titre comme ça que vous avez envie d'écouter comme ça. On improvise.
Oh, je sais pas. Je veux dire, c'est vrai qu'elle est plus là malheureusement depuis une semaine. C'est Morane. Moi, j'ai écrit une chanson pour un film et j'ai eu la chance que ça soit Morane qui la chante et c'est vrai qu'elle me bouleversait, quoi, parce que ça, elle avait une voix qui
n'a
nul autre pareil. Donc, je l'avais pris en pleine gueule. Moi, j'étais très ami avec Michel Berger. Et c'est vrai que pour la deuxième mouture de Starmania au Théâtre de Paris, à Paris, c'était Morane qui était sur scène et j'ai pris une claque, quoi. Elle m'avait retourné, quoi. Donc.
Eh bien, écoutez, votre choix sera le nôtre. Nous allons donc écouter Morane. Et vous voulez quel titre ?
Oh, bah, je sais pas. Ce qui vous fait plaisir. Moi, vous savez, je trouve que la voix de Morane se suffit à elle-même.
Eh ben, on va réécouter sur un prélude de Bach, ça vous dit ?
Non, absolument.
Allez, on y va.
Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et le cargo lourd que l'on rafistole et les torchères. Les citernes de gasoil, et toi qui courais dans les flaques, et moi et ma tête à claque, moi qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. seule. Et toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbeaux.
Donc c'était Morane sur un prélude de Bach, un petit clin d'œil de la part de Nicolas Perrac sur Playlist La Web Radio. Alors Nicolas, vous avez aussi composé pour d'autres artistes, je crois.
Bah, j'ai composé pour d'autres artistes. Le mot est... c'est pas ça le mot, en fait. Le mot, c'est que j'ai écrit des chansons. Qui à un moment donné ont été enregistrées par d'autres personnes, mais
par exemple,
quand Marie Laforêt a enregistré Tant qu'il y aura des chevaux, au départ c'était une chanson que j'avais écrite pour moi. Quand le Normand a enregistré une chanson de moi, Paroles et Musique, qui s'appelait Ailleurs, c'était une chanson que j'avais écrite pour moi. Après j'ai écrit des textes pour lui sur des musiques qu'il avait fait. Johnny Hallyday, c'est la seule chanson qui a été faite sur commande, une commande pour le spectacle du Palais des Sports de 1980. Où on est venu me demander d'écrire un passage particulier du concert du Palais des Sports. Donc là, c'était vraiment une chanson sur commande. Placido Domingo m'a enregistré une adaptation américaine d'une chanson d'un album qui s'appelait Les Eaux du Mékong. C'est devenu donc Why Do All the Good Times Go Away. Donc c'était au départ une chanson de moi.
D'accord.
on est plutôt dans le cas de quelqu'un qui écrit pour lui et dont d'autres personnes à un moment donné ont envie d'endosser des habits, parce que je suis pas épicier, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de me dire je vois une chanson comme ci comme ça, alors tu vois le mec il est comme ci comme ça.
Moi
je veux dire, il y a des gens qui font ça très bien, hein. Il y a des paroliers patentés qui font ça très bien. On leur dit voilà, on leur donne la trame, le truc, et ils font une chanson. Bon,
d'accord.
Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'écris beaucoup de chansons, ou j'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai beaucoup de chansons d'avance. Si dans ces chansons-là, il y en a une ou plusieurs qui a tendance à plaire à quelqu'un, bon, pourquoi pas, voilà. Mais écrire sur commande, j'ai un peu du mal, quoi.
Et puis c'est moins naturel, parce que du coup vous êtes obligé de penser à un sujet en particulier, et puis du coup c'est pas...
ça fait vraiment, c'est la confection, quoi. Je veux dire, c'est... on prend les mesures, et puis je dis, je vais vous faire un petit truc comme ça, je vais vous le faire, vous voulez quoi, vous le voulez...
Bien cuit, pas trop cuit,
voilà,
d'accord.
Est-ce que vous voulez une doublure, est-ce que je vous fais...
Tout à fait. Bon allez Nicolas, on va en venir à votre nouvel album Suffit que tu oses, qui est donc votre 20e album, hein, c'est ça, je me trompe
oui,
pas
20e, ouais.
et dont nous avons déjà diffusé quelques titres hein, sur Playlist La Web Radio. Moi, j'en ai déjà diffusé pratiquement un par semaine.
Ah, d'accord.
Et il est sorti dans les bacs donc en début d'année, en janvier. Et donc, nous allons en écouter quelques extraits. En écoutant ce nouvel album, alors moi j'ai eu l'impression, hein, très personnelle, à travers les paroles, les mélodies aussi, que votre plaisir à chanter était encore plus grand. Il a mûri avec l'homme, j'ai envie de dire, enfin ou pas, et c'est plus palpable, si j'ose dire, quand on vous écoute.
Arrive un moment, je pense que bon, on n'a plus rien, à prouver à part se faire plaisir, quoi. Donc moi je sais que j'ai très très envie d'écrire, j'ai très très envie de chanter, j'ai très très envie de partager ces émotions avec les autres. Et en même temps, plus le temps passe et plus j'ai envie d'être difficile avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai envie que les mélodies soient imparables, j'ai envie que les textes soient les plus écrits et les plus ciselés possibles. J'ai eu envie que la production soit la plus belle possible, et c'est vrai que grâce à Yves Jaget, qui avait travaillé avec Sting et Pink Floyd et qui a réalisé l'album et fait une grande partie des arrangements, c'était vers ça qu'on se dirigeait. Voilà, plus le temps passe et plus je pense qu'il faut être difficile. J'ai certains de mes confrères, quand j'écoute leurs albums, je me dis mais plus le temps passe et plus leurs albums sont moins bons. C'est-à-dire que on dirait qu'ils se satisfont de ils vivent sur le passé ou ils vivent sur l'acquis, où ils se disent bah voilà, j'ai eu tel succès, donc c'est pas la peine de se casser la nénette. les gens vont acheter de toute façon sur mon nom, ils vont aller acheter les albums. Et moi je suis désolé, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne d'abord par rapport au plaisir, et puis par rapport et puis moi je suis très très attaché à une phrase de Rudyard Kipling qui est tirée de ce poème qui s'intitule If et qui dit si tu peux rester digne en étant populaire. Je trouve que quand on est populaire, on n'est pas obligé de montrer ses fesses, quoi.
Tout à fait, je suis d'accord.
Plus le temps passe, plus les gens savent qui vous êtes, plus vous avez fait des choses, et plus il faut essayer de faire des choses qui sont encore mieux et plus belles, et éventuellement plus dignes qu'avant. Mais encore une fois, ça se pose pas en question de succès. Je veux dire, on peut très bien vendre 2 disques. C'est pas une histoire de d'argent, de gloire, de succès. C'est une histoire de se regarder dans la glace et de se dire, voilà, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es content de ce que tu viens d'écrire, ou est-ce que tu te rends compte que c'est de la merde et que tu essayes de nous faire croire que c'est bien? C'est juste cette question-là, quoi. Mm-hmm. Et moi, quand je me regarde dans la glace ou que j'écoute ce que je viens de faire ou ce que j'ai écrit, j'ai envie de pouvoir me dire, bon, bah, si on écoute ça dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, quand je serai plus là, les gens pourront se dire, bah, il a essayé de faire des choses qui étaient plutôt classe et sympa, plutôt que de faire des trucs de merde pour essayer de gagner 3 thunes, voilà.
Puis pour faire des trucs aussi qui...
C'est ce qui m'a porté, quoi, là, donc, voilà.
Oui, puis écrire des chansons qui vous ressemblent, parce que quand on écoute votre dernier album, bon, bah, quand je l'ai écouté, je dis, ça, c'est du Nicolas Perrac, c'est-à-dire que vous avez une griffe, vous avez une manière de chanter.
Une semaine avant que l'album sorte, il y a eu un papier dans le Parisien, Éric Bureau, donc le journaliste, avait fait un papier où il disait si Nicolas Perrac avait peur de faire l'album de trop, qu'il soit tout de suite rassuré, c'est peut-être son meilleur album. Alors c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça, qui me disent c'est peut-être ton meilleur album, alors comme si il avait fallu un certain nombre d'années pour arriver à ce que vous dites, c'est-à-dire que je sois définitivement moi, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait passer par les acoustiques improvisées, est-ce qu'il fallait passer par 15 ans d'absence, est-ce qu'il fallait passer par j'en sais rien, par une leucémie, est-ce qu'il fallait passer par plein de choses pour finalement arriver à se retrouver dans ces pompes sans avoir rien à prouver d'autre que l'envie de montrer qui on est en toute simplicité, voilà.
Mais du coup, comme je vous disais au départ, vous traversez les époques tout à fait naturellement, puis vous êtes toujours vous, c'est ça, parce que vous avez certains artistes, quand vous les prenez au début, et puis maintenant, ceux qui arrivent à durer, on a l'impression qu'ils ont changé de répertoire. Alors, par la force des choses aussi, parce que la vie change, et on fait qu'on peut-être...
Oui, et puis, il y a certains, il y en a certains que je ne nommerai pas, qui sont plus capables de chanter aussi, attention.
Ah oui, c'est vrai. Des noms.
Moi, je connais des gens qui ont perdu un octave et demi, quoi. Qui sont plus capables de chanter les mêmes chansons comme ils chantaient il y a 20 ans ou 25 ans. C'est aussi une histoire aussi de d'hygiène de vie, de préserver sa voix. Moi, j'ai la chance d'avoir exactement la même voix.
C'est vrai.
De chanter dans la même tessiture que quand j'avais 25 ans, la même.
Ouais, c'est vrai, vous avez toujours la même voix.
Je prends les chansons de l'époque So Far Away, je les chante aujourd'hui avec la même, dans la même tonalité, la même, hein, pareil.
Ouais. Bon.
Donc, ça veut dire que la boucle est bouclée et que c'est peut-être pour ça aussi que les gens me retrouvent, parce que les gens qui m'aiment bien, ils sont ravis de retrouver la même sensation en écoutant la voix, si la voix n'a pas changé des années plus tard, quoi.
Tout à fait. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Voilà. Vous résumez très bien. Alors, Nicolas, moi, je suis extrêmement ravie et puis quand même émue aussi que vous ayez accepté de répondre à mes questions, là, pour les auditeurs de Playlist La OM Radio. Et de nous avoir présenté ce nouvel album. Pour moi, c'est un grand plaisir, hein, d'avoir partagé ce joli moment avec vous. Eh bien, nous allons nous quitter en musique pour aujourd'hui. Et naturellement, bah moi j'ai choisi Suffit que tu oses, un titre que je diffuse déjà depuis un petit moment dans mon émission. Mais avant d'enchaîner sur cette jolie chanson, avez-vous quelque chose à rajouter ou un message à faire passer aux auditeurs, Nicolas ?
Bah, c'est-à-dire que oui, le seul message, c'est que l'album est sorti au mois de janvier. Malheureusement. Il a fallu que je me soigne à partir du mois de mars, donc on m'a pas vu partout, on m'a pas vu beaucoup, on m'a pas entendu beaucoup. Mais je pense qu'on va recommencer tout ce qui est émission, promotion à partir,
ah ben oui.
À partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, quand j'irai beaucoup mieux. Les concerts recommencent le 1er juin et puis je suis au Francofolie le 12 juillet à La Rochelle. Donc voilà, on recommence une vie sous contrôle, mais
oui.
Beaucoup plus proche de la normale qu'il y a deux mois. Voilà.
Écoute, tant mieux pour vous. une scène bientôt à Paris, non?
Bah non, parce que là j'étais déjà au Théâtre des Mathurins au mois de février dernier, donc
oui.
Je pense qu'on va se concentrer sur la province, et puis il y aura peut-être un autre concert à Paris dans l'hiver qui vient, parce que c'est vrai qu'un concert acoustique improvisé, c'est pas difficile à organiser, je suis tout seul avec Vincent, donc peut-être que pour marquer le coup on va en faire un autre, mais pour l'instant on est plutôt sur la province et sur la suite de la promotion qui a dû être interrompue malheureusement pour des raisons médicales. Voilà.
Tout à fait. On va remarquer si vous ne trouvez pas de salle sur Paris. Hein. Moi, un concert improvisé, on le fait à la maison. Moi, je fais une annonce et puis il y a plein de monde à la maison. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Merci encore pour ce joli moment, Nicolas. Et on va donc se quitter en écoutant Suffit que tu oses.
Merci.
Mille fois merci, Nicolas. Prenez soin de vous. Et puis surtout, à très vite.
Ok. Merci beaucoup.
Ça dépend de moi, de ces envies qu'on a d'échanger ou pas, d'oublier les apparences, de bannir l'indifférence, parce que bien trop froid dans nos bulles, de plus imaginer qu'on n'a rien à se dire. On est seul à l'écrire. Ce savoir grain de poussière, mais tous d'un même univers, du même atome, des particules, même souffle, même cœur. Suffit que tu veuilles, que tu oses, pour que change la noirceur des choses. Et qu'on se découvre enfin. Suffit que tu dises, que t'inventes d'autres mots dans ce que tu chantes, pour peut-être garder plus loin. À vrai dire presque rien, ton désir est le mien, d'imaginer la vie comme on l'aurait choisie. Avant les trappes et les pièges qui nous abîment les rêves et nous transforment l'innocence en doute, en peur. Suffit que tu veuilles, que tu oses, pour que change la noirceur des choses et qu'on se découvre enfin. Que tu dises, que t'inventes d'autres mots dans ce que tu chantes, pour peut-être garder plus loin. Suffit que tu veuilles, que tu oses dire non à ceux qui préfèrent qu'on exclue, qu'on méprise, qu'on bénisse. Que tu veuilles, que tu oses, pour que change la noirceur des choses et qu'on se découvre enfin. Suffit que tu dises, que t'inventes d'autres mots dans ce que tu chantes, pour peut-être garder plus.